Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Litteramour, le podcast franco-allemand de littérature, en compagnie de Clarisse Cosset et de...
Sigrid Brinkmann. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage.
En effet, par une journée ensoleillée mais très fraîche de mai, Sigrid et moi avons décidé d'aller rendre visite à une jeune autrice française qui vit actuellement à Leipzig et dont le premier roman, Faux départ, paru en 2018, nous avait fortement impressionné. De Berlin à Leipzig, le trajet en train dure à peine plus d'une heure. C'est dans la belle gare centrale de Leipzig que nous avons retrouvé Marion Messina.
Je vous attendais au bout du quai, mais je ne sais pas si vous avez vu mon message. Bon, d'accord.
Marion Messina est une jeune femme très sympathique et dynamique. Nous nous sommes immédiatement bien entendues toutes les trois. Elle fait un stage à l'Institut français, comme nous l'avait confié Myriam Louviot, du bureau du livre de l'Institut français de Berlin.
Nous avons traversé la zone piétonne de Leipzig, admiré le centre-ville et la richesse architecturale des bâtiments qui ont été épargnés par les bombes. C'était notre premier grand voyage depuis des mois, vous devinez pourquoi. Et nous étions tout simplement ravis.
Nous avions besoin d'un endroit où nous entretenir au calme avec Marion Messina.
Oui, donc voici Marie-Claire Liebenberg.
L'Institut français de Leipzig est logé depuis 2006 dans un immeuble Art déco situé juste en face de l'église Saint-Thomas, où réside le cœur des garçons appelés les Thomanes, qui sont connus dans le monde entier pour la pureté de leur chant. C'est là aussi que se trouve le tombeau de Jean-Sébastien Bach.
Après avoir été chaleureusement accueillis par Christophe Steyer, le directeur de l'Institut et son équipe, nous nous sommes installés dans la belle médiathèque dont les grandes fenêtres donnent sur la place de l'église Saint-Thomas et dont nous pouvions voir le drapeau français flotter dans le vent. Nous avons d'abord demandé à Marion Messina si elle souhaitait rester en Allemagne après son stage.
Ah non, je ne veux, autant que possible, je ne veux pas retourner en France, surtout pas avec les élections qui approchent et les conséquences très pragmatiques de la Covid qui vont nous tomber dessus. Donc non, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ville, j'avais repris mon master de lettres, donc je croise les doigts pour pouvoir continuer les études ici. Voilà, et puis bon, je vais avoir la réponse du DAAD d'ici 2 mois, j'espère. Donc voilà, non, vraiment, je continue à chercher des pistes. Donc ça passera probablement par la formation. J'ai une idée de thèse derrière la tête, et puis j'apprends l'allemand. Même si je suis en train de découvrir concrètement ce que c'est que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec l'accusatif, le datif et les 2 autres. Mais... Non, généralement, il faut que je sois loin de la France pour l'aimer. C'est vraiment le constat que j'ai fait quand je me suis déjà expatriée au Canada il y a quelques années. Je me suis jamais autant sentie française qu'en étant loin, et je me suis jamais sentie autant peu française qu'en y remettant les pieds, mais je pense que tous les expatriés ressentent ça.
Tout comme Aurélie, le personnage principal de son premier roman Faux départ, Marion Messina a fait l'expérience du précariat pendant de nombreuses années. Elle a commencé des études, accumulé divers petits jobs, cherché longtemps sa voie. Malgré de bons résultats scolaires, la voie universitaire n'était pas toute tracée pour elle. C'est le sort que connaissent nombre de jeunes issus de milieux ouvriers.
C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très tôt en France. C'est quelque chose que j'ai essayé de restituer dans Faux départ, mais quand on n'a pas la moindre idée des études qu'on va suivre et donc de la place qu'on va occuper, c'est-à-dire si on n'a pas déjà dès la naissance, entre guillemets, les bons parents pour nous indiquer la voie à suivre, la vie ressemble très vite à un parcours du combattant. Et je trouve que les Français sont très névrosés sur certaines choses, mais je parle vraiment de névrose que je croyais être jusqu'alors états-unienne ou japonaise, avec vraiment des fois des gens de 40 ans qui vous regardent presque avec des larmes aux yeux et qui vous disent « j'ai raté ma vie parce que j'ai pas eu tel concours à 18 ans » ou des gamins de 15 ans qui doivent redoubler leur 4e et qui se sentent mais complètement mortifiés parce qu'ils ont l'impression que déjà ils viennent de rater leur vie d'adulte.
Dans le roman Faux départ, Aurélie est admise à la faculté de droit de Grenoble, mais elle s'y sent étrangère et déçue par la pauvreté de l'enseignement qui ne semble pas gêner les autres étudiants, dociles comme des moutons.
J'ai vraiment eu ensuite dans l'esprit d'écrire un roman sur le sentiment que tous les gamins de ma génération qui venaient de mon milieu social ont ressenti, quoi. Ce sentiment d'exclusion et de mise à l'écart qui, au début, nous faisait culpabiliser jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était vraiment systémique. Et il n'est pas possible pour la France d'intégrer l'ensemble des gamins à potentiel qui viennent des couches populaires, des quartiers, etc. Ce n'est pas possible. Donc il y a des très bonnes places qui existent dans l'enseignement public. Ça, c'est vrai. La grande hypocrisie qui existe en France, c'est que les très bonnes places qui existent dans le système public sont réservées à des enfants qui ont des parents qui habitent déjà dans les bons quartiers. Donc les meilleurs lycées de France sont sans aucun doute possible des établissements publics avec un niveau d'enseignement que vous devriez payer des dizaines de milliers de livres ou de dollars dans le monde anglo-saxon. Mais pour avoir accès à cet enseignement-là, il faut de fait être les enfants de gens qui ont les moyens de se loger dans des quartiers de millionnaires, littéralement de millionnaires. Je pense que la France est complètement bloquée parce que on a aujourd'hui des établissements avec des places très chères qui sont occupées par des gamins qui ont les moyens d'avoir accès à ces places, mais la méritocratie telle qu'elle nous a été vendue dans les années 60, dans les faits, elle n'existe plus. Et on commence à avoir de plus en plus de diplômés de grandes écoles, et puis dans le milieu politique, c'est flagrant. On voit que les places sont occupées de plus en plus par des gens médiocres, de réseaux, de culture, de communication, et tout un rapport en plus à la présentation de soi qu'on n'inculque pas aux gamins des pauvres. Et en fait, le fait de réseauter, d'aller dans des endroits, de serrer des mains, de se mettre en avant, de toujours dire ce qu'on sait faire, de toujours être un commercial de sa propre personne, je pense que c'est quelque chose qui est dans l'éthos, pour le dire vite, de la bourgeoisie, mais que les enfants des couches populaires ne savent absolument pas faire.
Nous avons demandé à Marion Messina ce qu'elle pensait de la société française, maintenant qu'elle vit à Leipzig.
Je pense que la France va devenir complètement folle et schizophrène, parce que de plus en plus, le discours qui est tenu n'a plus aucune prise avec la réalité. Et en plus de ça, vous avez en France, au niveau économique, une espèce de dérégulation qui ressemble clairement au monde anglo-saxon, mais avec toujours derrière une bureaucratie et une administration prêts à vous étrangler en cas de faux pas. Donc la France, c'est encore le pays aujourd'hui où vous pouvez créer votre micro-entreprise pour travailler pour Deliveroo, et en même temps, si vous avez un bar, il faut l'autorisation de la préfecture pour mettre une chaise sur le trottoir. Et donc ces deux choses coexistent et finissent par rendre les gens complètement fous, parce que le message qu'il aurait envoyé constamment, c'est celui du « vous ne pouvez rien faire ». La plupart des Français que je connais ont été d'accord pour le confinement, en tout cas le premier ou en 2020, mais ont très mal vécu le fait qu'on leur ait retiré leur responsabilité individuelle et leur intelligence. Il y a des gens qui ont eu des contraventions parce qu'ils se promenaient tout seuls sur une plage vide. D'autres gens qui ont reçu une contravention parce qu'ils n'avaient pas signé leur mot d'excuse pour pouvoir sortir une heure avec leur gamin. Il faut ajouter à ça la tension sur le marché immobilier qui est vraiment moindre en Allemagne. Mais en tout cas, en France, même dans une ville de province, c'est quasiment devenu impossible pour des foyers modestes de se loger hors logement social. Il y a beaucoup de choses qui se cumulent et qui dressent un portrait, je trouve, terrifiant de l'avenir politique de la France. Et finalement, toute proportion gardée, je trouve que très peu de gens en parlent, hormis dans des essais comme L'archipel français ou La France périphérique, ce genre de livres, mais c'est une tension que je ne retrouve pas, en tout cas pas plus que ça, dans le roman contemporain par rapport au volume de romans proposés. Elle avait fini par comprendre. Il n'était plus possible de le nier, elle était sacrifiée sur un autel de bêtises et de renoncements. Elle travaillerait, dans des positions d'infériorité humiliantes, on exigerait d'elle qu'elle ne dorme jamais plus de 6 heures consécutives, qu'elle ait les ongles propres, qu'elle pointe au téléphone comme à l'usine, on vérifierait sans cesse la qualité de ce qu'elle aurait fait ou produit, elle avalerait toute sa vie du jargon de management, elle vieillirait dans des postes mal rémunérés, surveillée par des supérieurs interchangeables, tandis qu'elle s'enliserait professionnellement, comme son père ouvrier depuis des décennies, encadrée par des contremaîtres gonflés d'importance. L'ambition, pour sa caste, n'était pas une qualité, mais une utopie ou une lubie. Ce n'était pas pour elle. Elle devrait cesser d'envisager toute évolution. On appellerait ça l'humilité ou la raison. Elle travaillerait toujours plus pour un logement insalubre, se nourrissant d'aliments emballés dans du plastique. Ce qu'elle mangerait perdrait en goût et en vitamines. Elle ne lirait plus. Épuisée, elle rentrerait chez elle et s'abreuverait de télé-réalité, de fictions lourdingues et mal écrites. Votre est à droite en ayant honte de coûter aussi cher à son employeur. Trouverait normal le niveau de vie des politiciens. Justifierait l'étalage des richesses des élites, parce qu'il n'y a pas de honte à être riche, et qu'il en faut hein, pour faire vivre les autres. Elle fustigerait les gauchistes et ses compatriotes qui feraient mieux de travailler plutôt que manifester.
Après diverses étapes qui l'amènent à Paris, où elle travaille comme hôtesse en intérim et habite dans une auberge de jeunesse, Aurélie finit par rencontrer un homme et vivre avec lui dans une relation, mais sans attachement profond. Elle retrouve son premier amour, Alejandro, tombe enceinte et ne sait trop que faire.
Je pense que ce que fait Aurélie à la fin du roman, c'est qu'elle part, mais tout en restant en France. Parce que, de toute façon, quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, la solution n'est pas de s'épuiser à être accepté par un système qui a été fait contre vous d'entrée de jeu. Je pense que la solution, c'est le sortisme. Voilà, donc dans les années 70, c'était l'entrisme, c'était la gauche radicale qui voulait pénétrer l'enseignement, la magistrature, le journalisme et même la publicité. Avec un certain succès, quand même. Aujourd'hui, absolument pas. Aujourd'hui, la sortie, c'est absolument le sortisme. Ça peut passer par la néo-paysannerie. Enfin, moi, j'ai tenté cette voie aussi. À un moment donné, je suis allée me former en Normandie, où j'ai passé un BTS agricole. Donc, c'était toute une expérience. Donc, pour le coup, je pourrais faire un roman, parce que moi, je venais de Grenoble, donc une région de montagne avec énormément d'agriculture bio. Les départements voisins, c'est la Savoie, la Drôme et l'Ardèche. Donc des bastions d'agriculture paysanne. Puis je me suis retrouvée dans l'Orne avec des exploitations de 120 vaches laitières, avec le syndicat agricole majoritaire, avec des gens qui ne pouvaient pas faire reproduire leurs vaches sans passer par des généticiens ultra formés. Le top du top, c'était le tracteur qui fait la largeur du champ et puis le robot de traite à 300 000 euros. Donc moi qui avais une vision écologique de ma biocoop, là j'ai quand même pris une grande leçon d'humilité. Hein. Mais la solution, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est le sortisme. Ça, j'en suis convaincue. Ça peut se passer par, et ça se fait de plus en plus, la réhabilitation de coins entiers de France qu'on réinvestit, dans lesquels on essaye de monter un petit commerce. Mais voilà, c'est beaucoup de tracas administratifs, c'est beaucoup de chance, c'est beaucoup de coups de pouce. Il faut tomber sur la bonne municipalité, il faut encore aller dans le village où on accepte que vous soyez l'étranger qui débarque. Enfin voilà, il y a énormément de paramètres. Moi, de toute façon, j'ai depuis vraiment toute petite l'appel du large, donc je pense que je vais continuer ce que j'ai à faire en dehors de la France. Du moins, je vais tout faire pour. Au niveau politique, j'ai vraiment pas eu la tentation de rejoindre un parti, même si à un moment donné, j'ai hésité à prendre ma carte à la France Insoumise. Bon, j'ai eu vent de beaucoup de tambouilles intestines qui me donnaient pas envie de rejoindre cette logique-là. Voilà, les partis à figure charismatique m'emmerdent profondément. Les statuts encore officiels de la France Insoumise, aujourd'hui, c'est le soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2017. Hein.
Avec Faux départ, Marion Messina a fait une entrée fracassante dans le monde littéraire français. On a dit à son propos, Houellebecq a une héritière. Marion Messina est bien plus que cela. Les éditions La Dilettante ont publié son roman. Elle avait envoyé le manuscrit à 30 maisons d'édition.
Je regarde le milieu littéraire français, alors il y a des très bonnes choses qui en sortent, mais moi, je, sans caricature aucune, je suis fatiguée des vieilles bourgeoises qui viennent nous parler de leurs disputes de famille dans la maison secondaire de l'île d'Oléron. Voilà, avec les disputes en famille, les séances chez la psychanalyste. Oh là là, j'ai perdu mes clés pour mon F5 dans le 6e arrondissement, il va falloir que je parte en dépression. Cette littérature me donne l'impression du rococo à Versailles pendant la guerre de 30 ans. Voilà, il y a quelque chose de complètement déconnecté, et c'est pareil pour le cinéma, avec ces vieilles comédies qu'on a déjà vues 30 fois, de Quentin, 45 ans, joué par Guillaume Canet, qui est un réalisateur en goguette, qui trompe sa femme, joué par Marion Cotillard, avec je sais pas qui, joué par Virginie Efira. On n'en peut plus de cet art subventionné, ultra représenté dans la presse, qui ne parle à personne et en fait qui fait chier tout le monde et qui accessoirement prend l'argent public en otage. Voilà, quand je dis qu'il faut faire du sortisme plutôt que de l'entrisme, je pense que ça passe aussi avec la littérature. Il vaut mieux commencer petit, et il faut voir que commencer petit, c'est aller dans une petite maison d'édition et accepter, alors là il faut vraiment autoflageller son ego, il faut accepter des rencontres dans des villages où vous allez parler à deux personnes pour vendre deux livres. Mais parce que vos lecteurs, vous allez vraiment les chercher par la main, un par un.
Marion Messina a repris ses études après avoir eu son bachelor en littérature. Elle envisage de faire une thèse et a commencé à Leipzig l'écriture de son prochain roman.
Il n'y a rien qui me semble plus vital que lire et d'écrire. Vraiment, j'ai toujours pensé que pour manger, je pouvais accepter n'importe quel boulot tant qu'il me laissait la possibilité d'écrire. Et ça m'a donné aussi une certaine ouverture d'esprit parce que je pense que si demain on me dit « Ah, bah pour manger, il faut faire de la carrosserie », j'irai passer un CAP carrosserie sans aucune limite mentale, tant que j'écris.
Marion Messina nous a impressionnés par sa droiture, sa franchise et sa détermination. Nous attendons avec impatience son nouveau roman et espérons qu'elle obtiendra le soutien qu'elle mérite. Et maintenant, Clarisse aimerait partager avec nous son coup de cœur du mois.
Mon cœur bat ce mois-ci pour l'essai d'Emilia Roig intitulé « Why We Matter, das Ende der Unterdrückung ».« Why We Matter » est bien sûr une citation du slogan de contestation internationale « Black Lives Matter » qui est apparu aux États-Unis en 2013 et qui condamne les violences policières dont sont victimes de nombreux Noirs. Et le sous-titre veut dire « La fin de l'oppression ». Dans son essai extrêmement fourni et documenté, Emilia Roig aborde toutes les sortes d'oppressions. Elle nous livre le fruit de ses recherches sur la question et relate en parallèle l'histoire de sa famille et de ses lignées croisées. Son livre est une somme documentée, riche et de grande actualité pour comprendre et réfléchir à nombre de conflits qui perdurent et divisent l'humanité. Elle m'a expliqué qui était le « oui », le « nous » du titre.
Ce texte, pour moi, c'était important de l'écrire d'une manière qui soit très inclusive et qui soit inclusive, en fait, des personnes qui, dans notre société, ont été construites comme étant inférieures, comme étant invisibles, comme étant moins qu'eux. Et donc, le slogan, par exemple, « Black Lives Matter », nous indique, en fait, que c'est vraiment pour réélever les vies des personnes noires au niveau de l'humanité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'humanité, il y a eu une déshumanisation qui a pris place depuis plusieurs siècles. Et en fait, de dire Black Lives Matter, c'est pour essayer d'aller à l'encontre de cette déshumanisation. Mais il n'y a pas seulement les personnes noires qui ont été déshumanisées dans notre société, mais toutes les personnes qui ne font pas partie de la norme invisible et supérieure qu'on présente comme étant la norme universelle, naturelle, en fait. C'est pour ça que ça inclut toutes les personnes qui sont discriminés, qui sont opprimés sur un axe de leur identité ou plusieurs axes de leur identité. Donc ça va être les personnes handicapées, ça va être les personnes de la communauté LGBT, ça va être aussi les femmes de manière plus générale, c'est-à-dire dans leur ensemble. Comme vous voyez, je parle aussi dans tous les chapitres des effets du patriarcat et de la construction de la femme comme un être inférieur. Donc voilà, c'est un oui, en fait, et un nous qui va inclure beaucoup de personnes, donc des identités transversales qui ont été affectées par ces systèmes d'oppression et qui ont été construites comme étant inférieures et qui ont été aussi invisibilisées. C'est-à-dire que leur perspective a été invisibilisée, que leurs émotions, leurs sentiments, tout ça, ont été rendus invisibles.
Dans son travail de visibilisation, Emilia Roig aborde de manière systématique tous les lieux où le racisme, la ségrégation continue de sévir. En premier lieu dans nos têtes et dans le regard que nous portons sur les autres. Elle se définit elle-même comme un produit du colonialisme français. Sa mère est martiniquaise et son père juif d'Algérie. Elle analyse finement les conflits liés à ses doubles origines au sein de sa propre famille. Persuadée que son livre qu'elle a écrit en allemand était déjà en cours de traduction, j'ai été étonnée qu'elle me dise que
la traduction française pose un petit peu problème en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui sont assez réticentes à publier le livre. Et on m'a donné donc comme raison, l'une des raisons était « oui, c'est un livre trop radical », alors que je pense qu'il n'a pas été lu. Parce que alors, c'est un livre radical, en effet, mais c'est un livre qui va de l'avant et qui n'est pas forcément accusateur ou qui ne va pas forcément faire polémique, en fait. C'est vraiment mettre à jour des systèmes qui nous affectent dans notre société. Et je pense que c'est quelque chose qui reste assez sous couvert en France. On n'a pas un débat sur les discriminations et les inégalités qui donne la parole aussi principalement aux personnes affectées. Bon, même si moi, je suis une personne affectée, mais j'ai aussi fait beaucoup de recherches là-dessus. Donc, j'aime pas forcément cette différenciation entre experts et personnes affectées. Mais c'est un sujet qui reste assez difficile dans le contexte français parce que la France n'a pas eu un travail de un travail de réflexion sur son histoire au même point que l'Allemagne, même si j'en parle dans mon livre, l'Allemagne a encore beaucoup de travail à faire, mais du moins ça a été amorcé. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine autocritique sur l'histoire de l'Allemagne, sur son rôle dans les systèmes d'oppression. La France, pas du tout. On m'a envoyé plein de réponses pour justifier le refus. La dernière justification du refus, c'était « on aurait besoin d'une Emilia Roack française ». Alors, je me suis demandé, alors je suis née en France, j'ai grandi en France, je parle français couramment, et je me suis demandé, mais donc, une Emilia Roack française, donc il faudrait que je reste enchaînée au territoire français toute ma vie pour être considérée comme française, ou je n'ai pas vraiment compris, en fait. Donc voilà, je cherche encore une maison d'édition. Donc si vous connaissez une maison d'édition qui serait intéressée à traduire Why We Matter, ce serait avec plaisir.
Et pour celui de nombre de lecteurs et lectrices francophones que l'on prive de la découverte de cet essai et des réflexions qu'il suscite. Le mois prochain, nous vous emmènerons à Rome et Hans von Trotha sera notre guide. Il nous fera découvrir une histoire passionnante et longtemps oubliée, celle du bras de Pollock. D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures.
Et nous disons un grand merci à Jean Chimchak, avec qui c'est toujours un bonheur de travailler. C'était Littéramour, en compagnie de Clarisse Cosset et de
Sigrid Brinkmann.